Willkommen, bienvenue, welcome dans les Midi de Culture. À 13h, comme promis, on discutera avec la metteuse en scène Caroline Guillen-Guyen. Mais tout de suite, place au Point Culture avec Nicolas Herbeau. Bonjour.
Hallo Marie, bonjour à tous et à toutes. Nous vous parlons régulièrement ici du contexte politique et budgétaire et de ses conséquences pour le secteur de la culture. L'État a baissé son budget, une première depuis 10 ans. En cascade, les régions, les départements ont aussi coupé les dépenses. Rappelez-vous les cas les plus emblématiques, 73% de crédits en moins dans les Pays de la Loire. La présidente de la région, qui vient d'ailleurs d'ajouter un nouveau coup de rabot, 100 000 euros, nous dit ce matin Libération. Les aides aux événements culturels dans les lieux de moins de 200 places sont supprimées. Ce sont les cafés-concerts qui font grise mine. Plus au sud de la France, une mobilisation forte dans la ville de Toulouse nous a poussé à nous intéresser cette fois-ci à l'échelon local. L'édile peut-il sauver la culture? C'est le dossier du jour du Point Culture. Et j'accueille Vincent Guillon. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes le co-directeur de l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble et professeur associé à Sciences Po Grenoble. On va s'arrêter d'abord, si vous le voulez bien, sur le cas de la ville de Toulouse, où le monde de la culture est mobilisé depuis plusieurs semaines contre les baisses de budget. Pourquoi est-ce que les acteurs de la culture de la ville rose voient-ils si rouge ?
Concernant plus spécifiquement le cas de la ville de Toulouse, il y a un certain nombre de baisses qui ont été annoncés s'agissant d'équipements, soit qui sont gérés directement par la ville, soit dont la ville est la principale financeuse. Donc il y a, vous l'avez mentionné, le réseau des bibliothèques de la ville, avec une annonce, selon les représentants syndicaux, de 64% de baisse du budget de fonctionnement, ce qui est considérable si ces chiffres sont confirmés. On a également l'Institut supérieur des arts et du design de Toulouse, qui regroupe alors pour les auditeurs moins informés des sigles qui regroupent l'ancienne école des beaux-arts de la ville et le centre d'études supérieures musique et danse. C'est donc une école supérieure territoriale d'enseignement artistique. Là, on a une baisse annoncée du budget qui est fourni par la ville de 10%. Pour cette institution d'enseignement artistique, et une baisse de 30%, elle serait de 30% pour les 13 centres, le réseau des 13 centres culturels de la ville de Toulouse. Donc là, on a finalement une accumulation d'annonces très défavorables pour ces équipements de services publics culturels qui engagent pour une partie d'entre eux des fonctionnaires territoriaux, d'où ce mouvement de mobilisation important.
Vincent Guillon, la culture, c'est une compétence municipale ?
Ce n'est pas une compétence obligatoire, à part quelques domaines très précis dans les politiques culturelles, comme les archives, les schémas d'enseignement artistique. Mais autrement, de façon générale, c'est une responsabilité partagée. C'est-à-dire que l'ensemble des niveaux de collectivités publiques, État, région, département, intercommunalité, commune, ont la possibilité d'intervenir ou de ne pas intervenir dans le soutien à la vie culturelle, c'est-à-dire de conduire une politique culturelle. Or, il s'avère que 50 ans de décentralisation culturelle ont amené un système de cofinancement de l'ensemble de ses partenaires publics à soutenir assez largement le déploiement et le développement de la vie culturelle. Mais il y a peu d'obligations en la matière. Donc, à partir du moment où le volontarisme politique s'affaisse, où le consensus sur le bien fondé d'un soutien à la vie culturelle s'effrite, eh bien, c'est l'ensemble du secteur qui s'en trouve fragilisé. Donc là, on traverse une crise, d'une certaine façon, de ce système coopératif de financement de la vie culturelle en France.
L'année prochaine vont se dérouler les municipales. Vincent Guillon, est-ce que c'est un contexte politique qui peut sauver ou alors justement endommager encore plus les budgets culturels au niveau des villes ?
Alors, concernant plus particulièrement les villes, la situation est plus contrastée que pour les autres niveaux de collectivité territoriale. C'est-à-dire que on a pour 2025 une majorité de stabilité ou de baisse budgétaire comprise entre 1 et 5 % en ce qui concerne les budgets culturels totaux et les budgets culturels de fonctionnement. Là où pour les régions et les départements, les annonces de coupes budgétaires sont plus élevées. S'agissant des villes, c'est vrai qu'elles se trouvent dans une situation, de grand inconfort par rapport à leur politique culturelle. Cette situation est en partie liée à une forme de saturation de leur capacité à financer la vie culturelle. C'est-à-dire que depuis une cinquantaine d'années, les politiques culturelles locales se sont développées dans une perspective assez inflationniste de soutien à l'offre culturelle, où on a empilé comme ça des équipements, des services, des programmes de financement. Et dans une période où on demande aux collectivités territoriales de réduire leurs charges publiques, ces villes ont d'une part de la difficulté à maintenir ce statu quo de financement de la vie culturelle qui pèse fort hein, dans leur budget. C'est-à-dire que pour les plus grosses d'entre elles, on est souvent en présence du deuxième ou troisième budget municipal qui peut aller jusqu'à 20% du budget total d'une ville. Donc on est quand même sur des charges publiques assez importantes et une capacité à renouveler, à faire évoluer ces politiques culturelles qui est extrêmement contrainte par un financement à assurer d'un héritage de 50 ans de décentralisation culturelle. Donc c'est sûr qu'on a en la matière des élus qui ont plus de difficultés peut-être qu'auparavant à justifier ces charges publiques de financement de la culture, des sujets culturels qui, du point de vue de leurs objectifs, font moins consensus qu'avant, des politiques culturelles qui sont également moins en mesure d'asseoir une image positive pour les élus, et dans certains cas, une instrumentalisation politique de la culture qui s'affirme ces derniers temps, avec une inversion presque totale du rapport à politique à la culture. Jusqu'ici, on cherchait plutôt à soutenir un secteur culturel. Désormais, dans certains cas, on peut chercher à construire un positionnement politique dans une forme de défiance à ce secteur culturel. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'incertitudes qui planent sur ce financement de la vie culturelle par le bloc local, sachant que les villes et les intercommunalités financent à plus de 80% la vie culturelle du point de vue des collectivités territoriales. C'est-à-dire que leur part représente 80% du financement de la culture par les collectivités territoriales. Donc ce bloc local, ces villes, constituent vraiment un petit peu le pivot, le centre de commandement culturel autour duquel se joue une grande partie de l'avenir de cette offre publique de culture en France.
Merci beaucoup Vincent Guillon d'avoir été ce midi avec nous sur France Culture.
Je vous en prie, merci à vous.
Et l'actualité culturelle nous emmène aux États-Unis, Nicolas, où des stars défendent la protection des jeunes LGBT.
Daniel Radcliffe, Ariana Grande ou encore Dua Lipa, au total une centaine d'artistes, viennent de signer une lettre ouverte. Ils réagissent ainsi à un projet de suppression du budget fédéral consacré à une ligne d'écoute et de prévention du suicide pour les jeunes LGBT. Le texte s'adresse aux concernés. Il leur dit qu'ils ont le droit de se sentir en sécurité, soutenus et aimés tels qu'ils sont. Il s'adresse aussi ce texte à l'administration Trump et au Congrès. Les stars demandent la préservation du 9 ou 88. Ce numéro de téléphone rappelle qu'il a pris en charge plus de 1,3 million de jeunes américains. Aucun jeune ne devrait être laissé sans aide dans les moments les plus difficiles, insiste le texte.
Face au développement de l'intelligence artificielle, les éditions Kalman-Lévy ripostent.
Et pour montrer que leurs publications sont bien traduites par un être vivant, le PDG Philippe Robinet veut détailler dans les ouvrages à paraître le parcours de traducteurs et des traductrices. Annonce faite durant la présentation des rentrées littéraires de septembre, c'est la période, hein, Marie, chaque maison se prête à l'exercice. Face à cette montée des traductions par IA, le but c'est donc de redire ce qu'est un traducteur. C'est une voix et elle n'est pas interchangeable, insiste Philippe Robinet. Et c'est donc Olivier Manoni qui fera partie des premiers mis en avant. Il a traduit plusieurs textes depuis l'allemand.
Et pour finir, Nicolas, un préservatif rare est exposé au Rijksmuseum d'Amsterdam.
Oui, rare car très ancien, Marie. Il date de 1830. Rare aussi car, tenez-vous bien, orné d'une gravure érotique représentant une religieuse et trois ecclésiastiques dans des poses provocantes. Probablement fabriqué à partir d'un appendice de mouton, il pourrait s'agir d'un souvenir de maison close dont deux seuls exemplaires ont été conservés, explique le musée qui en possède donc désormais un. Musée qui précise aussi que l'objet témoigne des multiples applications de l'art de la gravure et offre aussi un aperçu de la sexualité et de la prostitution au 19e siècle.
Merci Nicolas, je vais réfléchir à tout ça. On vous retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.